Bienvenue à toutes et à tous. Je suis David et vous êtes sur Radio BPCO, l'émission qui donne la parole aux experts de la BPCO. Professionnels de santé ou patients, nos intervenants vont vous partager leur expérience et leur expertise au sujet de cette maladie. C'est aujourd'hui notre troisième épisode, Voyage et BPCO. Nous sommes accompagnés de Marie-Josée Dos Santos, patiente experte et membre de Santé Respiratoire, nous venant tout droit de Bordeaux, et du docteur Iacono, pneumologue en cabinet à Nîmes. Nous commençons avec Marie-Josée, qui va nous parler de son parcours. Bonjour Marie-Josée, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous ?
Oui, donc je m'appelle Marie-Josée, j'ai 58 ans et j'habite à Bordeaux. J'ai été diagnostiquée emphysème BPCO en 2001, il y a 22 ans, et je suis sous oxygène depuis 2017, il y a 5 ans. Je suis formée à l'éducation thérapeutique du patient et j'ai le certificat universitaire de Marseille comme patient expert. Mais bon, moi je préfère patient partenaire. Je suis membre de l'association Santé Respiratoire France. Et mon témoignage est surtout pour les voyages en avion, avec son oxygène, en concentrateur d'air.
Merci. D'après vous, quelles précautions doivent être prises avant de voyager en avion ?
Alors là, je vais commencer par dire que nous sommes tous différents dans cette pathologie et que le plus important, c'est de consulter son médecin ou son pneumologue pour avoir son avis suivant notre état. Il nous fera un certificat médical qui dit que nous pouvons prendre l'avion. Et la deuxième chose, la plus importante après, c'est la compagnie. Chaque compagnie est différente. Donc avant de prendre un billet, il faut bien confirmer que notre concentrateur est bienvenu à bord. Car il y en a qui ne nous veulent pas du tout. Il y en a qui acceptent les concentrateurs, mais sans s'en servir. Donc ça ne sert à rien parce que c'est justement quand on est en vol qu'on désature. Donc c'est là qu'il nous faut notre concentrateur. Et heureusement, beaucoup nous acceptent. Donc on peut prendre l'avion. Il faut s'imprimer la page de la compagnie où est noté que notre appareil est bien accepté à bord pour pouvoir la présenter si on nous refuse l'accès. La majorité du personnel n'est pas au courant, à part le pilote. Ils ne connaissent pas nos appareils. Il faut donc être prêt, nous-mêmes, à leur expliquer que ce n'est pas de l'oxygène, donc que ce n'est pas dangereux, mais que c'est un concentrateur d'air. Ensuite, il faut consulter son prestataire, 15 jours avant le départ pour la France et 30 pour l'étranger, en moyenne, pour la marche à suivre, si on a besoin d'oxygène sur place pour la nuit. Alors, il nous donnera tous les documents nécessaires et les coordonnées éventuelles d'un prestataire sur place pour l'étranger. Et il faut que ça soit traduit aussi en anglais, suivant les pays où on part. Il faut avoir sa carte européenne de l'assurance maladie, mais il faut savoir que l'avance de frais peut être demandée si on a besoin de quelque chose dans un autre pays. Il faut avoir aussi une photocopie de la fiche technique de sa machine. Il faut prévoir les batteries suffisantes. Alors, pour le vol, les heures d'attente avant le vol, les transferts avant et après, les escales, les retards éventuels, car on ne peut pas recharger dans l'avion. Et c'est un peu difficile, mais c'est possible, par contre, dans les aéroports. Et bien sûr, les avoir avec soi et pas en soute, parce qu'en plus, c'est interdit. On doit avoir aussi nos traitements habituels, et en prévision d'une exacerbation aussi, les traitements et l'ordonnance avec nous en bagage à main. Et suivant, il faut prévoir aussi les chaussettes de contention. Donc suivant son état, il est souhaitable aussi de prévoir l'assistance PMR pour un fauteuil roulant pour les aéroports. C'est gratuit et en plus, on se fatigue beaucoup moins et on stresse aussi beaucoup moins. C'est un service très bien organisé et suivant les aéroports qui sont vraiment très grands, il y en a, ça nous arrange bien d'avoir ce service-là. Et en plus, on passe en VIP, en tout le monde. Donc, pour ceux qui ont besoin d'assistance dans l'avion d'oxygène liquide, là, c'est plus compliqué. Là, il faut remplir le MEDIF qu'on trouve sur le site de la compagnie par son médecin et l'envoyer 30 jours avant au médecin de la compagnie, attendre sa réponse et avoir toutes les photocopies avec soi le jour du vol.
Et que ressentez-vous en avion ?
Alors, tous les voyages sont différents. parce que les avions ne vont pas à la même altitude suivant leur temps de vol. C'est pas pareil de prendre un vol de 1 heure comme 4 heures ou 8 heures. C'est vraiment très différent. Donc pour ma part, à l'aide de mon oxymètre, que j'achète en pharmacie ou en grande surface Quintiana, je contrôle ma saturation en oxygène pour pouvoir régler mon concentrateur au fur et à mesure du vol, pour ne pas en avoir ni trop ni pas assez. Quand je prenais l'avion avant d'avoir l'oxygène tout en étant malade, ben je m'endormais. C'était un des symptômes que j'avais avant d'avoir l'oxygène.
Finalement, où pouvez-vous voyager ? Y a-t-il des destinations à éviter d'après votre expérience ?
Alors, je dirais qu'on peut voyager partout, mais il faut quand même penser à notre pathologie. C'est pas la même chose si on a l'oxygène à l'effort ou 24 heures sur 24, déjà. Ça dépend de notre pathologie, l'état que l'on est. Il faut penser aussi à notre machine, puisqu'on est relié à une machine. Donc, la machine, il ne lui faut ni trop chaud, ni trop froid. Donc, pour le chaud, normalement, on nous dit plus ou moins 35 degrés et pour le moins 5 degrés, ni la pluie, ni l'humidité. Donc, le parapluie est utile autant pour le soleil que pour la pluie, pour protéger son appareil. Parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on peut faire le voyage, donc il faut vraiment le protéger. Si je pars à l'étranger, j'essaie d'aller dans un pays où je parle la langue pour pouvoir me faire comprendre si j'ai un problème. Il faut penser aussi, quand on va à l'étranger, aux prises électriques. Parce que des fois, c'est assez souvent que ce n'est pas les mêmes qu'en France. Donc avec des adaptateurs, regarder sur Internet les prises du pays pour être sûr après de pouvoir se brancher quand on arrive, surtout. Et même si on pense avoir tout organisé, il y a toujours des imprévus, comme ce qui m'est arrivé dans mon dernier voyage en avion en 2019. Mon concentrateur s'est arrêté. Donc, soit à cause de la pluie, de l'humidité, de la chaleur, on ne sait pas trop. Il n'a refonctionné que quelques jours après. Donc, à cette époque, j'avais l'oxygène que à l'effort, donc heureusement. Et j'ai pu rester dans ma chambre d'hôtel, tranquille, en attendant que l'appareil veuille bien refonctionner. Parce que, bien évidemment, on nous donne des contacts de prestataires, mais malheureusement, suivant le pays, ils ne connaissent pas les machines et ils n'ont rien à nous proposer en remplacement, parce qu'ils n'ont pas. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et puis, bien évidemment, je me suis enrhumé. Donc ça aussi, ça arrive quand on part en voyage, comme ça peut nous arriver aussi quand on est chez nous. Mais bon, là, heureusement, j'ai pu commencer le traitement que j'avais avec moi aussi de suite. Ça aussi, c'est important de l'avoir avec soi pour commencer, suivant le nombre de jours qu'on part en vacances. Mais après, bien évidemment, tout est beaucoup plus compliqué quand on est en exacerbation. Donc pour le retour, surtout en avion. Et heureusement que ma machine a refonctionné. Parce que sinon, là, j'aurais pas pu reprendre l'avion pour faire le retour. Donc, les destinations à éviter, je dirais, surtout les endroits très pollués, l'altitude, et faire attention au climat. Suivant les pays, ils n'ont pas le même matériel et ils ne pourront pas vous aider. Donc, à part si on va à l'hôpital, que c'est le seul endroit où on pourra nous aider si vraiment on est en désaturation. Si notre appareil ne fonctionne pas bien ou qu'on a un souci de santé. Bon, après, en France, à Bordeaux, là, on a eu plus de 40. Donc, bien évidemment, je ne suis pas sorti. Et même, je n'étais pas en vacances, mais je ne suis pas sorti vu que ma machine risquait de tomber en panne. Donc, c'est pas que pour l'étranger, c'est aussi pour chez soi qu'il faut faire attention aussi à sa machine. Et donc, si vous restez en France, c'est beaucoup plus facile, que ce soit avec le train ou la voiture. Ça engendre beaucoup moins de soucis que l'avion, ça, c'est sûr. Et dans le train, premièrement, on n'a pas besoin d'autorisation. Deuxièmement, il y a des prises sur tout le trajet. Et troisièmement, vous avez le service aussi de personnes à mobilité réduite, où on vous accompagne en chaise roulante jusqu'au train. Et puis pour la voiture, eh bien, on peut se brancher sur l'allume-cigare, pareil, tout le trajet.
Merci pour ces précieux conseils. Vous auriez un petit mot de conclusion ?
Oui, ben je dirais que ce n'est pas parce qu'on est sous oxygène qu'on ne peut pas voyager. Mais il faut essayer de bien s'y préparer, surtout. Et bon voyage !
Merci beaucoup Marie-Josée d'avoir partagé votre histoire. Je me tourne maintenant vers vous, docteur Iacono. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ?
Bonjour, je m'appelle Michel Iacono, donc je suis pneumologue installé depuis une trentaine d'années à Nîmes en cabinet de groupe, en libéral, avant en clinique, maintenant plus en consultation. Et donc on a cette problématique d'insuffisance respiratoire ou de handicapés respiratoires qui ont besoin de voyager.
Et par rapport à ces voyages justement, et plus particulièrement les voyages en avion, quels peuvent être les risques ?
Il y a plusieurs risques. Il y a les risques respiratoires et cardiovasculaires, puisque souvent les insuffisants respiratoires ont des pathologies associées. Dans les risques respiratoires, il y a le risque de désaturation, parce que quand on va en altitude, et les avions sont pressurisés à une certaine altitude, à 2500 mètres à peu près, il y a la composition de l'air reste la même, mais en valeur absolue, le taux de l'oxygène diminue. Donc évidemment, ça peut entraîner des désaturations. Et quand ils ont ces désaturations, eh ben, ça leur demande un effort respiratoire plus important et une aggravation de l'essoufflement. En cas de BPCO, les variations, en particulier lors de la montée après le décollage, entraînent une altération des échanges gazeux, une diminution de la force musculaire et puis une hyperventilation. Et c'est cette hyperventilation qui est très désagréable pour l'insuffisant respiratoire. Comme je vous le disais, les cabines sont pressurisées, mais elles sont pressurisées quand on arrive en phase de vitesse de croisière, en fin d'altitude. Et puis, suivant les vols, on est plus ou moins haut. Mais enfin, la pressurisation reste à peu près la même. Et ensuite, pour les gens qui ont un problème d'emphysème, il peut y avoir une augmentation de la distension, puisqu'il y a une diminution de la pression. Donc, la distension chez l'insuffisant respiratoire aussi entraîne une aggravation de l'essoufflement. Ensuite, on a d'autres risques qui sont liés à l'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire quand on est insuffisant respiratoire, on a une polyglobulie. Cette polyglobulie, elle peut entraîner des problèmes de thrombose, de phlébite, d'autant plus que quand on est en avion, on a une déshydratation importante, hein, c'est pour ça qu'on dit toujours il faut bien boire pendant qu'on est dans l'avion. Et le fait de rester assis, d'avoir une diminution du flux sanguin, ça risque d'entraîner des problèmes de phlébite. Et après, bon, quand on a une phlébite, on peut avoir une embolie pulmonaire. Et là, ça devient beaucoup plus grave pour le coup. Lors de voyages en avion aussi, on a des risques infectieux par le fait de la promiscuité entre les gens lors de séjours confinés avec d'autres individus dans les salles d'attente des avions, même des trains et des bus. Il peut y avoir contamination infectieuse lors d'épidémies virales. Et là, on en a été témoin avec la Covid. Mais il y a aussi la grippe et puis d'autres virus respiratoires qui peuvent entraîner ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il faut conseiller aux gens à ce moment-là de porter des masques. Nous avons aussi le bronchospasme, c'est-à-dire l'aggravation de l'obstruction bronchique, qui elle est bien plus rare dans les voyages en avion.
Et par rapport à ces voyages justement, et plus particulièrement les voyages en avion, quels peuvent être les risques ?
Eh bien comme Marie-Jo en parlait, il est intéressant d'avoir des bas de contention, voire des collants de contention pour certaines personnes, parce que ça sert moins que les chaussettes au niveau du pli des genoux. Après, c'est plus difficile à supporter des fois quand il fait chaud. Et surtout, s'hydrater beaucoup lors du vol et porter un masque. S'il y a un risque important de phlébite, parce qu'on a des varices, parce qu'on a une polyglobulie importante, si un voyage est très long, il peut être important de traiter préventivement les patients par des anticoagulants injectables, ce qu'on appelle des heparines de bas poids moléculaire, qui sont en sous-cutané à dose préventive. L'injection se fait avant le voyage. Et ce qui est important aussi, c'est avoir sa trousse de secours à disposition, des bronchodilatateurs en cas de bronchospasme pendant le voyage, et le traitement habituel en bagage à main avec ordonnance, comme le disait aussi Marie-Jo, en français et en anglais. Et pourquoi en bagage à main ? Parce qu'il y a des risques de perdre des bagages en soute, et quand on arrive sur un pays étranger, on n'a pas obligatoirement les mêmes spécialités ou les mêmes noms, et ça peut entraîner des confusions. Donc c'est bien d'avoir de la cortisone, de l'héparine aussi pour le voyage de retour, il faut y penser, qu'on va revenir normalement. Et ensuite des antibiotiques et le traitement habituel.
Finalement, que conseillez-vous à vos patients avant qu'ils ne partent en voyage ?
Surtout, être stabilisé au niveau respiratoire avant de partir et d'essayer de voir son médecin traitant ou son pneumologue au moins 15 jours avant le voyage, afin de pouvoir pallier à toute situation et éventuellement de faire une trousse d'urgence pour les patients s'ils n'ont pas les traitements adéquats pour des surinfections bronchiques. Il faut aussi leur proposer de limiter l'altitude dans certains voyages pour pouvoir profiter justement, et ça aussi, comme le disait Marie-Jo, les conditions d'environnement sont importantes pour que ce soit un plaisir, parce que après, si ça devient une épreuve, ça va pas être très amusant pour le patient, et puis même pour l'environnement, parce que après, ils vont se sentir pas à l'aise, l'environnement va être inquiet. Donc toujours faire attention à ça et puis essayer, même si on est en montagne, c'est-à-dire d'essayer de faire des visites à plat, c'est-à-dire pas trop de dénivelé, parce que ça peut se gérer ça. Mais le principal facteur limitant est l'appareillage du patient. Comme on le disait aussi, en fonction de certaines conditions climatiques inhabituelles, le fonctionnement des extracteurs portables peut être vraiment perturbé, voire impossible. Pas de plongée sous-marine, parce que ça c'est bon. Vous êtes pas tenté, vous ne serez pas tenté, Marie-Jo, je pense, d'aller faire de la plongée sous-marine, même s'il y a un petit peu d'oxygène. Être accompagné, c'est important, comme elle en parlait aussi. Hein, être accompagné, prévoir les déplacements, parce qu'il y a le transporter la valise soi-même, demander une assistance au voyagiste ou à la gare à l'avance. Et s'assurer que le pays de destination peut accueillir des patients insuffisants respiratoires en cas de décompensation respiratoire. Hôpital, matériel d'oxygénothérapie, enfin bon voilà, les traitements d'une décompensation respiratoire.
Merci docteur Iacono pour ces précieux conseils. Est-ce que vous auriez un mot de fin ?
Alors nous, en tant que médecins, nous avons la connaissance théorique, mais c'est surtout l'expérience de nos patients qui nous guide dans nos pratiques. Hein, c'est ce qu'ils nous racontent, parce que rien de mieux que le patient pour être témoin vis-à-vis de sa maladie, mais vis-à-vis aussi d'autres patients. Et l'anticipation est indispensable. Il ne faut pas partir comme ça, la fleur au fusil, et se dire, tiens, je vais aller là, ça va être bien, parce que ça peut devenir dramatique et très angoissant. Tous les patients sous oxygénothérapie ou ventilation, parce qu'il y a aussi la ventilation, doivent contacter leur pneumologue et prestataire 15 jours à 30 jours à l'avance. Un mois, ça me semble bien, parce que ça permet d'organiser tout tranquillement, correctement, pour avoir les coordonnées d'un centre médical et d'un prestataire au point de destination. Il y a toujours des relais, donc il faut l'organiser. Et il faut, ce qui me paraît important aussi, c'est de donner les conditions de voyage, c'est-à-dire l'avion, le train, et ainsi de suite, et le type de résidence sur place. Parce qu'en fonction que le patient est dans un hôtel ou dans une maison de vacances, la contrainte ne sera pas la même pour l'installation du matériel. Une chambre d'hôtel, c'est parfois un peu plus compliqué qu'une maison de vacances. Et puis après, si on est dans un camping parce qu'il y a des mobil-homes, des choses comme ça, ça peut être compliqué. Et puis, il faut savoir si on a bien un accès à l'électricité. Parce qu'il y a certains pays où l'électricité, c'est pas 24 heures sur 24. Et puis, essentiel aussi, c'est d'avoir du matériel de secours, c'est-à-dire les lunettes, enfin tous les consommables qui peuvent aller avec l'oxygénothérapie ou avec la ventilation, avec les masques, les tuyaux, ainsi de suite.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages.
Ben moi, je vous remercie aussi parce que c'est une bonne expérience médicale pour moi. Et puis, de confronter avec le patient et de parler d'autre chose que pendant la consultation, c'est très bien. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois.
Mais merci aussi à vous de m'avoir invité et merci docteur pour tous les renseignements que vous m'avez apportés que je connaissais pas encore quand même parce que il y avait beaucoup d'informations sur les risques que je ne connaissais pas et donc voilà, faut quand même prendre en compte tous ces risques aussi que nous avons quand nous prenons l'avion.
Ça vous permettra de voyager plus loin.
Voilà. Mais merci docteur.
Au revoir.
Au revoir.
C'est donc la fin de ce troisième épisode de Radio BPCO. Merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous votre histoire et votre expertise. Et à très bientôt, j'espère. Quant à nous, nous nous retrouverons très vite pour le prochain épisode de Radio BPCO.